Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sporama sur VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, nous sommes en direct de Washington. On va refaire l'actualité sportive du week-end sur le continent. On va saluer bien évidemment nos intervenants. Depuis Kinshasa, le rédacteur en chef de Top Congo FM, notre station partenaire, Thierry Kamoundi via Skype. Bonsoir Thierry.
Nicolas, bonsoir à tous.
On a également avec nous depuis Casablanca, c'est au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Jules Valentin Ngoué nous a rejoint depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et enfin Élisée Ongpatine est avec nous depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Merci beaucoup. Alors, on va bien évidemment vous demander de participer à cette émission. Le numéro de téléphone, toujours le même, 001 202 205 26 33, 001 202 205 26 33. On va bien évidemment commencer par la Ligue africaine des champions, les quarts de finale aller qui se sont déroulés. Thierry Kamoundi, on va vous rejoindre depuis Kinshasa. Thierry, le tout-puissant Mazembe qui affrontait le Primeiro de Agosto. On va revenir sur le match dans un instant, 0-0, mais malheureusement une bousculade a eu lieu, 5 morts, ça repose le problème de la sécurité dans les stades, notamment sur le continent africain.
Absolument, absolument, c'est triste, parce d'autant plus que la rencontre à elle seule s'est bien déroulée durant les 90 minutes. Malheureusement, au sortir du stade, une bousculade a eu lieu. Et selon l'équipe de Mazembe qui vient de rentrer ce soir sur le Lubumbashi et que nous avons contacté, la bousculade a même eu lieu en dehors de l'enclos du stade. Donc on ne sait pas, une enquête a été ouverte par la police angolaise pour déterminer les causes de cette bousculade. Mais comme vous l'avez dit, ça relance une nouvelle fois l'éternel problème de sécurité, d'évacuation du public dans les stades africains. En tout cas, nous avons du boulot à faire là-dessus.
Merci beaucoup Thierry, on va se tourner vers Jules Valentin Ngoué. Jules Valentin, un mort et une trentaine de blessés, c'était la semaine dernière à Madagascar en marge du match Madagascar-Sénégal pour les éliminatoires de la Confédération africaine de football pour la CAN 2019. On se souvient également en 2009 à Abidjan, il y avait eu également 19 morts lors d'une bousculade. Pourquoi selon vous ces scènes qui se répètent encore trop souvent sur les pelouses africaines ?
Oui, il y a deux raisons principales. Il y a d'abord l'adaptation des infrastructures. Il faudrait que dans nos stades, l'entrée au stade et la sortie soient facilitées et par les structures architecturales et des lieux de rencontre elles-mêmes. Et d'autre part, il y a le problème de sécurité. Il faudrait qu'on sache que lorsqu'il y a une masse qui se retrouve à un endroit avec la passion qui entoure les rencontres de football, que c'est c'est une situation particulière à gérer et délicatement. Moi, je crois que généralement, quand un match est programmé en Afrique, on voit que l'aspect sportif du match et toute la logistique qui suit et toutes les précautions qui peuvent également suivre ne sont pas prises aussi au sérieux et qu'il ne le faudrait.
Allez, on va revenir sur le match en lui-même, un 0-0, un résultat qui, a priori, donne plutôt l'avantage au tout-puissant Mazembe avant le match retour à Lubumbashi. Avant de vous entendre les uns et les autres, on va écouter l'entraîneur du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayou.
Un match de 0 but partout, ce n'est pas un avantage pour nous, parce que je sais que ce score-là, c'est un score piège, et on doit continuer à travailler pour pouvoir faire mieux au match retour qu'on va jouer à la maison. Oui, c'était un très bon match, une très bonne équipe en face qui a bien joué depuis les débuts et qui a des qualités de joueurs exceptionnelles. On l'a vu, on l'a remarqué à partir de la première période et on a essayé de s'organiser en deuxième période pour pouvoir contrer et essayer de jouer sur le bas de contre qu'on a eu à exploiter. Malheureusement pour nous, on n'a pas marqué par rapport aux occasions qu'on a eues.
Voilà, Pamphile Miayou, l'entraîneur des corbeaux du tout-puissant Mazembe. Thierry, qu'est-ce qu'il a manqué au tout-puissant Mazembe pour faire la différence ? Est-ce que l'absence du capitaine Renfort Kalabas, et ça a joué ?
Oh non, je ne pense pas trop. Il a manqué plutôt du réalisme à la ligne offensive du tout-puissant Mazembe. Ce match était quasi parfait pour les corbeaux dans le contenu. Sauf devant le but, ils ont eu une kyrielle d'occasions qu'ils ont manqué l'une après l'autre en première ou en deuxième mi-temps. Surtout en fin de match où ils ont failli faire craquer la solide défense du primero de Agosto d'Ango.
Voilà Thierry, on vous a perdu avec la ligne...
L'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert.
Voilà, malheureusement, la ligne Skype. Est-ce que vous nous entendez Thierry?
Je vous entends très bien.
Alors,
je
nous, on avait
donc qu'il a manqué du réalisme au tout-puissant Mazembe Anglebert. Les Corbeaux sont rentrés cet après-midi sur Lubumbashi. Pas de repos pour le joueur. Dès demain, ils sont mis au vert. Ils ont juste la soirée d'aujourd'hui pour aller voir leur famille. Dès demain, ils ont mis au vert pour travailler justement l'adresse devant le but. Vous avez entendu Pamphile Miao dire que 0-0, c'est un score piège qui n'est pas forcément à l'avantage de Mazembe, qui veut, devant son public, ce vendredi, se mettre à l'abri en marquant de but sans en encaisser face à ces Angolais qui ont démontré hier également, malgré la domination de Mazembe en déplacement, qu'ils pouvaient et ils avaient également des atouts pour faire douter les Corbeaux de Lubumbashi.
Et le 0-0, c'est aussi le score à Conakry. Merci Thierry. Le Oroya, qui n'a pas réussi à marquer contre les Égyptiens d'Al Ahly. On va poser la question à Élisée Ongpatine. Élisée Ongpatine, finalement, hein, face à l'ogre Al Ahly, est-ce que c'est pas plutôt un bon résultat pour Oroya d'avoir limité la casse? Évidemment, Al Ahly est favori sur cette rencontre. Un 0-0, c'est jamais évident à domicile. Mais est-ce que finalement, compte tenu de la qualité de l'adversaire des Égyptiens, entraîné par Patrice Carteron, est-ce que c'est pas plutôt un résultat honorable pour Oroya?
Nicolas, est-ce qu'on peut parler de résultat honorable puisque déjà en face, c'est bien sûr une grande équipe du national du Caire qui était en déplacement à Conakry. C'est vrai que l'attaque de Oroya n'a pas inquiété, du tout inquiété, une défense entourée d'un certain Salif Koulibaly, ancien des Corbeaux, du tout puissant Mazembe ou encore Ahmed Fati qu'on ne présente plus. C'est vrai que Okanse Mandela ou encore Sekou Camara qui est rentré dans le match à un moment donné ont poussé un tout petit peu, mais on a senti qu'il a manqué cette expérience de grand niveau, a manqué à cette équipe du Oroya de bousculer bien sûr l'équipe entraînée par un certain Patrice Carteron, ancien vainqueur de cette Ligue des Champions justement avec le tout puissant Mazembe. Maintenant 0-0 concédé, c'est vrai, c'est un résultat qu'on peut mettre à l'actif du national du Caire puisque le club n'a pas perdu, mais il faut aussi dire que le club guinéen aussi n'a pas encaissé un but à domicile. Tout peut se jouer dans une semaine, samedi prochain, pour être aussi du côté du Caire, puisque si jamais l'équipe entraînée par le français Zvonka arrive à marquer un but, et si jamais le score restait à un but partout, eh bien, les rouges et blancs de Matam peuvent passer. Attention, Patrice Carteron a été recruté pour remporter cette Ligue des Champions qui échappe au club égyptien depuis près de 3 ans. Donc, c'est dire que ça va être un peu compliqué, mais c'est un bon résultat aussi pour les Guinéens, Nicolas, puisque tout va se jouer à la manche retour.
Merci beaucoup, Élisée. Allez, on va donner la parole à Amine Birouk, qui se trouve au Maroc, pour parler de ce match entre l'Entente de Sétif, qui a dominé le tenant du titre, le WAC de Casablanca, grâce à un but du Sénégalais Isla Diomandé à la 16e minute de jeu. Qu'est-ce qui s'est passé pour le WAC, Amine?
Un WAC méconnaissable depuis de nombreuses semaines et qui continue dans cette tendance depuis le départ de son ex-entraîneur Fawzi Benzerti, devenu sélectionneur tunisien. Visiblement, la mayonnaise ne prend pas avec le nouvel entraîneur, en tout cas l'entraîneur intérimaire. Et on a vu une équipe tiborée en première mi-temps, complètement à côté de la plaque, qui a été bousculée d'entrée par l'équipe algérienne. Un poteau pour les Sétifiens, et puis le but de la saison. WAC a essayé de réagir en deuxième mi-temps, mais il a manqué de percussion offensive, les munitions étant bonnes, mais la finition a pêché, notamment dans les dernières minutes du match. Ça fait que le 1-0 est en faveur des Algériens, qui sont en ballotage favorable. Le match retour aura lieu vendredi prochain. Louis Diaz va devoir compter sur l'appui de son public et surtout essayer de se refaire une santé. Depuis la victoire face au Oroya Conakry, il y a eu de très nombreuses contre-performances. Le fond de jeu n'y est plus et on a l'impression que l'équipe est en train de tout simplement se saborder. On verra s'il trouvera les ressources pour pouvoir rebondir. On sait qu'elle possède des éléments expérimentés, que le soutien de son public sera fondamental. Mais aujourd'hui, l'équipe algérienne de Sétif, avec ses maigres moyens, en tout cas ses moyens un peu plus limités que le Wydad de Casablanca, a fait l'essentiel. 1-0-0, 1-0 ne sont jamais bons lorsqu'on joue à domicile. Il faudra marquer 2 buts sans en encaisser un seul. Et visiblement, les Algériens, avec leur entraîneur Rachita aussi, qui connaît très bien le football marocain, puisqu'il est originaire du Royaume chérifien, et surtout le Wydad, puisqu'il il a affronté à de très nombreuses reprises ce club, peut avoir plus d'un tour dans son sac vendredi prochain.
Merci beaucoup, Amine. On va vous donner également le résultat de l'Espérance de Tunis, qui a pris une option dans le derby tunisien grâce à sa victoire 2-1 face à l'Étoile du Sahel. On passe à présent au résultat des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. L'USM Alger surpris par Al Masry en s'inclinant 1-0. Et à Kinshasa, l'AS Vita Club qui a renversé Berkane. Les Dauphins Noirs ont pris une option sur la qualification en battant la Renaissance de Berkane 3-1. Les champions de la République démocratique du Congo avaient pourtant été menés 1-0 suite à un coup franc repris par Mohamed Aziz. Mais les Congolais ont eu de la ressource. Jean-Marc Makoussou d'une demi-volée du pied gauche. Puis évidemment, le Congolais a donné l'avantage cette fois-ci à son équipe en deuxième période avant que Djuma Chabali ne vienne inscrire le troisième but. On va écouter Florent Ibengué, l'entraîneur de l'AS Vita Club.
On a bien démarré le match et puis après 10 minutes, on a sombré. Berkane qui est passé, qui nous a mangé tous les duels. On n'était pas là au duel, on était très fébrile. Et puis on a encaissé un but, donc ça a été encore plus compliqué pour pouvoir revenir. Heureusement, bon, avec un peu de talent, on a su revenir au score juste avant la mi-temps. Et à la mi-temps, c'est vrai que le discours aussi, il est pour ça. Donc il y a ces deux choses combinées. On n'était pas nous-mêmes, on a juste demandé aux joueurs de redevenir nous-mêmes, de produire le jeu qu'on fait d'habitude.
Redevenir nous-mêmes, comme l'explique Florent Ibengué. On va retrouver Thierry Kamoundi via Skype à Kinshasa, notre station partenaire. Thierry Kamoundi, un bel avantage finalement pour les hommes de Florent Ibengué. Hein. Thierry, est-ce que vous nous entendez ? On vous écoute, Thierry.
Allô ?
Oui, nous vous écoutons. On va aller du côté d'Amine Birouk, hein, du côté du Maroc. La défaite, en attendant de parler à Thierry Kamoundi, la défaite Renaissance sportive de Berkane à Kinshasa. Amine, comment vous l'analysez ?
Et on a gagné tous les duels en première mi-temps. Il a mené au score de manière assez loin. On voyait que l'équipe de l'AS Vita Club avait des individualités, mais que les enchaînements offensifs, notamment en première mi-temps, avaient dû mettre en danger la défense de l'équipe visiteuse. Il y a eu donc ce but de Mohamed Aziz. Et si Berkane, après la mi-temps, avec ce maigre avantage, peut-être que la physionomie de la rencontre aurait changé. Mais il y a eu ce but égalisateur sur le fil du repos, la 40e minute, qui a touché. Et justement, ici, à du côté de l'AS Vita Club, Florent Ibengué a pu recadrer ses joueurs, qui devaient être beaucoup plus conquérantes, beaucoup plus dangereuses. Et à ce niveau-là, quand il y a les individualités, quand il y a le vécu, quand il y a le soutien d'un public qui était très nombreux au Stade des Martyrs, il y a eu ces deux buts qui ont mis KO l'équipe marocaine, qui n'a pu compter sur, son dernier renfort à l'intra-ouvrir, que dans les 5 dernières minutes, il était un peu juste après une blessure. Et peut-être qu'à 2-1, lorsque l'équipe congolaise a pris l'avantage, il aurait mieux valu gérer plutôt que de chercher le but égalisateur et de se découvrir. Et c'est l'expérience, c'est le métier. Et à ce niveau-là, il y a quelques longueurs d'avance par faveur de l'AS Vita Club. Maintenant, le match retour se déroulera à Berkane, dans un petit stade, un vrai stade de football, sans pièce d'athlétisme, avec un public peut-être moins nombreux.
Voilà, la ligne est un peu difficile avec Amine sur le Maroc. On va tenter de retrouver via Skype Thierry Kamoundi à Kinshasa. Thierry, vous nous entendez ?
Très bien.
Alors Thierry, on le disait, la belle victoire à domicile de l'AS Vita Club.
Oui, justement, Florent Ibengué est revenu sur ce qu'a été ce match, le club qui a démarré tambour battant, puis qui s'est perdu au bout d'une dizaine de minutes, laissant l'initiative du jeu ces redoutables Marocains qui ont bouffé les Dauphins Noirs dans tous les duels, notamment au milieu de terrain. Il ne faut pas oublier que le club avait beaucoup d'absents de taille, des joueurs indiscutables, des titulaires comme Gonda, comme Fabrice Ngoma, qui n'était pas là, comme Goudi Kama. Et il a fallu ce but contre le cours du jeu, d'ailleurs, puisque les Marocains continuent à dominer le match à 2 minutes de la pause pour réveiller le Stade des Martyrs et réveiller les Dauphins Noirs qui sont revenus avec un tout autre état d'esprit, de manière plus conquérante en seconde période, et ont réussi à soutenir, appuyer par tout un stade, à mettre ces 2 buts qui ont permis avec club donc de l'emporter. Florent Ibengue a parlé à la fin du match, il a salué le contenu du match de son équipe en seconde période, mais a regretté ce but concédé à la maison. Vous avez suivi Amine Birouk le rappeler, c'est toujours bien de marquer à l'extérieur, et l'équipe marocaine l'a fait, et donc ça risque d'être préjudiciable avec club si les Dauphins Noirs ne savent pas gérer leurs 2 buts d'avance. Donc il va falloir beaucoup travailler, et Florent Ibengue, qui devrait récupérer certains de ses titulaires, de ses joueurs cadres, va aller plutôt en conquérant à Berkane, justement pour essayer de consolider cet avantage à défaut de le défendre.
Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue pour parler de l'autre équipe de l'autre côté du fleuve Congo, le Raja de Casablanca, qui s'impose 2-1 face au Kara de Brazzaville. La déception, bien évidemment, de l'entraîneur Jacques Onsira.
Bon, dire déçu, c'est un peu trop dire. C'est une guerre qui a 2 batailles. Nous avons perdu la première. L'important est de ne pas perdre du courage. C'est ça le football. Je crois que le score 2-1, c'est un score de football, c'est pas un score de handball ou de basketball. Donc on a toujours espoir.
Toujours espoir. Amine Birouk, on vous a retrouvé avec une meilleure ligne. On l'espère, c'est un pas et demi vers la qualification du Raja là.
Un pied et 3 orteils, visiblement, pour Raja de Casablanca. Sur la physionomie de la rencontre, on a vu une équipe qui était un cran supérieur au Kara de Brazzaville. Le Raja a joué avec beaucoup de personnalité, a su imposer son jeu, s'est créé de nombreuses occasions en première mi-temps sans pouvoir concrétiser. Et ce n'est qu'en début de deuxième mi-temps que les Casablancais ont pu prendre l'avantage grâce à Raimi à 47e minute. Ils ont concédé un coup de massue avec, sur la seule action dangereuse du Kara de Brazzaville, ce coup de pied arrêté, but égalisateur, et ont trouvé les ressources 5 minutes plus tard pour reprendre l'avantage grâce au buteur de la compétition, Ben Halib. 11 réalisations depuis le début de la Coupe de la CAF. Le Raja est en bonne voie. Il y a eu sur les 8 dernières rencontres officielles un seul échec du club casablancais. C'était devant l'AS Vita Club, une rencontre de phase de groupe. C'est une équipe qui carbure avec une attaque percutante, de nombreux joueurs expérimentés, un entraîneur qui connaît déjà les compétitions africaines, l'Espagnol Juan Carlos Garrido, qui avait gagné la Coupe de la CAF il y a 3 saisons avec El Ahly d'Égypte. Ce sont des atouts pour pouvoir transformer cet essai à Casablanca dimanche prochain.
Merci beaucoup Amine. On va rappeler l'autre résultat, le match nul au Rwanda entre le Rayon Sport et les Nigérians. Denimba 0-0. Allez, on passe à présent à la Ligue des Champions en Europe. Les coups d'envoi sur les pelouses européennes, c'est demain et mercredi pour un nouveau feu d'artifice sur le football européen. Jules Valentin Gouy à Libreville, évidemment après la triple couronne du Real Madrid, orphelin, on l'a déjà dit et répété, de Zinedine Zidane, de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous pensez que les Galactiques vont pouvoir faire la passe de 4, sachant par exemple que Gareth Bale, aujourd'hui cité par la presse britannique, déclare que finalement le Real aujourd'hui joue plus en équipe sans Cristiano Ronaldo, un petit tacle à son ancien coéquipier. Comment vous voyez les choses?
Oui, il a parfaitement raison. L'équipe est beaucoup plus collective et il n'y a pas une Cristiano-dépendance comme l'année passée ou bien les saisons passées. Mais seulement quand on a un joueur comme Cristiano dans son effectif, il débloque toujours des situations difficiles et il a démontré à plusieurs reprises. Mais je crois que le problème du Real sera qu'il sera attendu un peu partout pendant cette saison. Et son grand rival, Barcelone, je crois, a bien envie de revenir au premier rang. Et ma foi, les rivaux ne manquent pas. Tottenham est là. Nous avons l'Atletico qui peut toujours réagir. On a surtout Manchester City et Liverpool. Donc je crois que le bal est ouvert, les prétendants sont nombreux. On verra le premier tour d'abord avant de se faire une idée.
Et on va parler avec vous, Élise Ngpatin, de l'autre club de Madrid, l'Atlético, vainqueur de la Supercoupe d'Europe, vainqueur de l'Europa League, avec dans ses rangs un certain Antoine Griezmann qui rêve de Ballon d'Or, mais début de saison poussif pour les Colchoneros, une victoire seulement, si je ne m'abuse, lors de ces quatre premières journées de la Liga. Comment vous voyez les Colchoneros, vous, Élise Ngpatin? Ils débutent à Monaco.
Bien évidemment, puisque c'est une équipe qui peine, hein, bon, est-ce qu'on peut dire qui peine, hein, qui n'arrive pas à enchaîner en championnat, puisque le week-end de poulet, hein, elle a été tenue encore en échec à domicile, un but partout, c'est-à-dire que face à Monaco aussi, qui n'a plus réellement de très bons joueurs afin de rivaliser avec les grands de cette Ligue des Champions, Monaco qui à chaque saison laisse partir ces grands joueurs, ça va être un match qui sera à la portée des Madrilènes, mais attention, puisque l'objectif cette année pour l'Atlético Madrid, c'est bien sûr de renforcer cette Ligue des Champions. Diego Simeone l'a dit, et pour ça, ils ont tout fait pour retenir et retenir quand même l'attaquant français Antoine Griezmann, la star de cette équipe. Est-ce qu'ils auront les ressources nécessaires pour aller à la conquête de cette Ligue des Champions tant convoitée par de très grands noms du football européen, notamment le Real Madrid qui est toujours en ligne de mire, le FC Barcelone, le Bayern de Munich, même la Juventus de Turin qui rêve de cette coupe aux grandes oreilles qui lui échappe depuis 1997. Ça va être très difficile pour l'Atlético Madrid au vu de son effectif qui peine actuellement en championnat.
Et on va passer la parole à Amine Birouk. Le choc demain à Anfield Road, le Paris Saint-Germain en déplacement chez Liverpool. Mohamed Salah qui répond un peu aux abonnés absents depuis le début de la saison, hein, malgré évidemment la facile victoire 6-0 de l'Égypte contre le Niger. Comment voyez-vous cette opposition finalement entre les deux techniciens allemands qui s'occupent des deux équipes?
Ce sera un véritable révélateur pour les deux équipes. Liverpool s'est renforcée dans tous les compartiments de jeu. Elle est beaucoup plus forte sur le papier que lors de la précédente édition. On se rappelle que les Reds avaient atteint la finale, mais on sentait qu'il y avait encore quelques pièces du puzzle qui manquaient au dispositif tactique de l'entraîneur Jürgen Klopp. Aujourd'hui, c'est une équipe beaucoup plus équilibrée. Preuve en est, ces 5 victoires consécutives en championnat. Il n'y a plus une mané-dépendance, une Salah-dépendance, puisque Roberto Firmino est capable de produire du jeu, de marquer. Wijnaldum est capable d'amener du danger depuis le milieu de terrain. Et puis, c'est une équipe un peu plus solide derrière. Paris Saint-Germain a une obsession, c'est gagner la Ligue des Champions. Il a beaucoup investi lors des deux dernières saisons pour pouvoir gagner enfin cette coupe aux grandes oreilles. On verra si Mbappé, qui est en train de s'éclater dans le championnat français, qui est dans son nuage depuis la Coupe du Monde, si Neymar aussi, qui occupe une position plus axiale, est capable de se montrer un peu plus altruiste, il y a les moyens d'avoir une très très belle confrontation. Et puis, il y a aussi l'atout numéro 1 de Liverpool, son public de Cop d'Anfield Road, qui poussera certainement son équipe à se surpasser face à un des ogres de la compétition.
Merci beaucoup. On va vous donner la liste des rencontres. Hein. Bien évidemment, Bruges contre le Borussia Dortmund, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Naples, le Galatasaray face au Lokomotiv de Moscou, le Schalke 04 face au FC Porto et demain l'Ajax d'Amsterdam contre l'AEK Athènes, le Shakhtar Donetsk contre Hoffenheim, le Benfica face au Bayern de Munich, Manchester City contre Lyon, Real Madrid AS Rome, le Victoria de Plzeň face au CSKA Moscou, les Young Boys de Berne contre Manchester United et le FC Valence contre la Juventus de Turin. On suivra ça bien évidemment avec attention. Voilà, ainsi s'achève ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va saluer Thierry Kormundi à Kinshasa via Skype. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Un coucou également à Amine Birouk qui était avec nous depuis Casablanca, c'est au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, lundi prochain.
Bonsoir également à Élisée Ngpatin, Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et enfin, le doyen le plus sage de la bande, c'est bien évidemment Jules Valentin de Gouy à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
La mise en onde était assurée par Fredner, Kayemit et Firmin Kowayeda, Nicolas Pino à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique et on se dit à la semaine prochaine.
Lundi soir, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.